le mag de l'urbanisme, de l'aménagement et du logement, une émission en partenariat avec le ministère en charge du logement sur Radio Territoria.
Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro du mag de l'urbanisme, de l'aménagement et du logement, le magazine coproduit par Radio Territoria et la DGALN, la Direction Générale de l'Aménagement, du Logement et de la Nature. Aujourd'hui, nous allons parler de logement, mais de logement pour les étudiants et les jeunes actifs. Et pour en parler, j'ai à mes côtés Michel Félep. Bonjour Michel.
Bonjour Johanna.
Vous êtes chargée de mission animation territoriale DHUP DGALN. Vous répondrez aux questions de nos auditeurs en fin d'émission. Et puis nous sommes accompagnés d'Yves Roche. Bonjour Yves.
Bonjour.
Vous êtes chef de projet pour le logement des étudiants et des jeunes actifs DHUP DGALN. Et c'est vous qui allez nous éclairer sur ce vaste mais précis sujet. On attaque tout de suite avec la thématique du jour.
Le mag de l'urbanisme, de l'aménagement et du logement, la thématique du mag.
Le gouvernement attache une grande attention à l'amélioration des conditions de vie et de logement de nos jeunes concitoyens, qu'ils soient étudiants ou jeunes actifs, dans le double objectif d'améliorer leur accès aux études supérieures et leur insertion professionnelle et de favoriser leur réussite et leur accès à l'autonomie. Des réponses appropriées et immédiates doivent donc être développées pour aider, au moins temporairement, à choisir et non pas subir son lieu de vie. Un travail collectif permet d'adapter le marché du logement aux nouveaux besoins des jeunes. Il faut préciser que le logement est le premier poste de dépense dans le budget de l'étudiant comme du jeune actif. C'est pourquoi l'ensemble des acteurs est donc mobilisé dans une ambition commune de favoriser le développement de l'offre de logement à destination des étudiants et des jeunes actifs. Yves Roche, pour commencer, même si on vient d'en dire quelques mots, quelles sont les spécificités du public étudiant et jeunes actifs qui appellent une mobilisation générale ?
Bonjour. En effet, le sujet du logement est très vaste. Il y a beaucoup de publics dont les besoins sont à satisfaire. Mais ce matin, je voudrais appeler plus particulièrement l'attention sur les attentes des étudiants et des jeunes actifs. Alors les étudiants, parce qu'ils sont de plus en plus nombreux, avec des classes d'âge nombreuses. Et puis le choix que nous avons fait d'investir sur la jeunesse, avec l'accès au baccalauréat, l'accès à l'enseignement supérieur. Et ce qu'il est très important de préciser, l'accès à l'enseignement supérieur du choix de l'étudiant. Donc pas nécessairement dans la commune où il y a son domicile familial. Il doit pouvoir se projeter dans la métropole où il trouvera l'enseignement supérieur de son choix.
Donc ce qu'on veut, c'est vraiment redonner le choix et les armes aux étudiants pour qu'ils n'aient plus à simplement ou être obligés de choisir la facilité ou
alors,
le pratique.
La facilité, plutôt le choix qui serait conditionné par des raisons économiques. Donc effectivement, pouvoir se projeter dans une autre métropole, c'est pouvoir y trouver un logement accessible en fonction des ressources qui peuvent être modestes de l'étudiant. Le jeune actif, lui, est dans une situation similaire du point de vue de la démographie, mais il a aussi des besoins spécifiques, puisqu'aujourd'hui, l'entrée dans la vie active se fait par petites étapes, se fait parfois par tâtonnement, avec plutôt des contrats à durée déterminée en début de parcours professionnel. Je rencontrais récemment le délégué national de l'UNCLAJ. C'est très important, l'UNCLAJ, c'est l'Union nationale des comités locaux pour le logement autonome des jeunes. Tout est dit. Orientation des jeunes, mais vers l'autonomie. Et le délégué national de l'UNCLAJ me disait qu'aujourd'hui, l'accès au contrat à durée indéterminée est autour de 27 ans. Donc on voit bien un parcours haché, avec potentiellement aussi la reprise d'études jusqu'à l'âge de 27 ans, et donc des besoins de logement accessibles quand on a de faibles ressources, mais également pour de plus courtes durées. Donc il y a bien des spécificités aussi à satisfaire pour les jeunes actifs.
Concrètement, comment les acteurs locaux sont-ils emportés dans cette ambition partagée ?
Alors le sujet du logement des jeunes actifs et des étudiants est un sujet qui plutôt rassemble. Donc tout le travail qui se réalise sur les territoires est un travail de coordination, de partage d'informations et de mobilisation de l'ensemble des acteurs. Alors le défi est de n'oublier personne et de travailler aux bonnes échelles. Donc si on prend bien sûr l'échelle de la métropole, l'échelle de la communauté d'agglomération, on va penser aux collectivités, on va penser aux acteurs du logement social, les représentants locaux du monde HLM, également Action Logement, le financeur privilégié Banque des Territoires. On va penser au monde de l'université, on va penser université, mais on va penser service du rectorat, on va penser CROUS. Et puis sur les jeunes actifs, il y a plusieurs réseaux. J'ai parlé de l'UNCLAGE, je voudrais dire un mot de l'UNAGE, l'Union nationale pour l'habitat des jeunes. Il y a des associations gestionnaires de foyers de jeunes travailleurs. Donc il y a tout un ensemble d'acteurs à rassembler. Et les services de l'État, du ministère du Logement, donc DREAL au niveau régional, direction départementale des territoires, sont pleinement mobilisés pour bien veiller à ce rassemblement le plus exhaustif des acteurs au niveau, encore une fois, métropolitain de la communauté d'agglomération, mais aussi au niveau régional. La région est une échelle très importante de coordination. L'Union sociale pour l'habitat est représentée au niveau régional par une association régionale HLM. Et l'État coordonne les politiques publiques en matière de logement depuis le niveau régional, au travers du Conseil régional de l'habitat et de l'hébergement, qui est présidé par le préfet ou la préfète de région.
Effectivement, ça fait quand même beaucoup d'acteurs différents sur un même sujet. Comment se passe cette collaboration entre eux ?
Comme le sujet est un sujet qui rassemble, la collaboration se passe plutôt bien dès lors qu'on veille dans l'année à inscrire au programme de travail des rendez-vous d'étape sur ce sujet. Des rendez-vous en matière de logement, on en a tout le long de l'année. Donc le combat, il est d'inscrire à l'ordre du jour le sujet des étudiants et des jeunes actifs et de faire en quelque sorte une revue de politique publique sur ces sujets-là.
On le sait, 2020 a été une année électorale. Quel message adresser aux exécutifs municipaux, communautaires et métropolitains qui viennent d'être renouvelés ?
Alors il n'est jamais trop tard déjà pour leur adresser des félicitations républicaines, mais derrière, il y a un défi à relever sur beaucoup, beaucoup de sujets. Alors si on prend le sujet du logement étudiant et des jeunes actifs, je pense que les exécutifs locaux renouvelés vont rapidement engager des procédures sur des documents stratégiques que sont le plan local d'urbanisme et le programme local de l'habitat. Sur ces deux documents stratégiques, il est très important, dès le début de la procédure, de bien identifier les enjeux en matière de logement étudiant et jeunes actifs. Si je prends le plan local d'urbanisme, le plan local d'urbanisme, c'est un document qui définit une vision à long terme au travers du plan d'aménagement et de développement durable. Dans cette vision à long terme, on va avoir un défi d'attractivité pour la métropole, une recherche de vitalité économique. On va apprécier le dynamisme de l'enseignement supérieur sur le territoire. Donc dans le PADD, on trouvera assez naturellement le sujet de l'emploi des jeunes et le sujet du logement des étudiants. Dans le même plan local d'urbanisme, on va, depuis la vision d'ensemble jusqu'au plan de zonage et au règlement, et donc là, sur l'ensemble du territoire communal, nous cherchons des réponses en termes de constructibilité. Et je prendrai l'exemple des campus universitaires qui, aujourd'hui, ne sont pas toujours complètement traités dans les plans locaux d'urbanisme. Il y a une réflexion à conduire sur l'intégration dans un projet de construction urbaine, comme c'est le cas, la semaine dernière, nous étions à Metz. À Metz, l'île du Saucy, qui est un campus emblématique, la métropole, la ville de Metz, réfléchissent aux réponses à apporter en termes de desserte, en termes d'intégration dans un projet d'ensemble, au travers du prochain plan local d'urbanisme. Le programme local de l'habitat, lui, est très précisément défini par le Code de la construction et de l'habitation, et il y est attendu également un savoir sur le logement étudiant et jeunes actifs, des objectifs, et donc c'est également un vecteur de réponse. Je dois dire au territoire ce matin que les services de l'État seront complètement à leur côté pour les éclairer en termes de connaissances au travers des travaux que les collectivités ont nourris avec leurs agences d'urbanisme, au travers des observatoires territoriaux du logement pour les étudiants, au travers de porter à connaissance des services de l'État, des enjeux que le préfet fera partager. Donc on a là des procédures que les exécutifs locaux vont à présent engager, pour lesquelles ils seront accompagnés et dans lesquelles nous devons trouver des réponses en termes de logement pour les étudiants et les jeunes actifs.
Quels sont les leviers de production de ces logements étudiants ?
Alors sur le logement étudiant, et ce sera vrai également du logement des jeunes actifs, il y a quelque chose qu'il faut redire, c'est que les financements d'accompagnement de cette production sont là. Donc le sujet, je ne crois pas qu'il soit en premier le sujet des financements. Si je prends l'exemple du logement étudiant social, c'est une priorité nationale que l'on retrouve dans les orientations ministérielles de programmation pour l'année 2020. c'est également quelque chose qui est au cœur des décisions du Fonds national des aides à la pierre, qui réserve une grande enveloppe pour financer des logements étudiants sociaux. Et cette enveloppe, ces dernières années, n'a pas été intégralement consommée. Donc en matière de logements étudiants, il faut redire qu'il n'y a pas d'abord un sujet financier. En matière de logements jeunes actifs, si on pense par exemple au foyer de jeunes travailleurs, un foyer de jeunes travailleurs, ça se finance avec des subventions et des prêts très avantageux. Je vais jargonner, on appelle ça les PLAI. Ces prêts sont disponibles. Donc on peut accompagner le financement de nouveaux foyers de jeunes travailleurs. La Caisse nationale des allocations familiales a la capacité d'accompagner également les projets pour tout l'environnement social, le projet social avec des travailleurs sociaux plus près des jeunes. Donc le sujet du financement n'est pas la clé en ceci que les financements me semblent disponibles. La clé, elle est de faire émerger les projets, de les faire émerger sur du foncier à identifier. Donc on a beaucoup plus le défi de rassembler les acteurs sur la volonté de faire et l'identification de foncier. Il faut voir qu'il y a beaucoup d'objectifs en matière de logement, beaucoup de publics à servir. Donc quand on identifie un foncier, il faut parmi tous les publics prioritaires, à un moment donné, répondre aussi aux besoins des étudiants et des jeunes actifs.
Vous parliez tout à l'heure de Metz et justement, il a été signé ce vendredi 2 octobre par la conférence des présidents d'université, la CPU, le Centre national des œuvres universitaires et scolaires, le CNOUS et l'Union sociale pour l'habitat, l'USH, en présence de la ministre de l'enseignement supérieur, Frédéric Vidal, et de la ministre déléguée au logement, Emmanuelle Wargon. Un protocole, d'abord, que dit-il et que va-t-il apporter ?
Alors effectivement, le 2 octobre a été signé ce protocole qui est un jalon important de l'année 2020, de même que l'a été un peu plus tôt dans l'année une circulaire des ministres que vous avez cité sur l'identification de foncier constructible, puisqu'une des clés est le foncier constructible. Un des leviers va être de regarder dans le périmètre des campus si on peut réaliser de nouvelles résidences étudiantes. Et le 2 octobre, des acteurs très importants, donc le monde universitaire au travers de la CPU, le réseau des œuvres universitaires et scolaires, très proche des étudiants, experts en termes de gestion de résidences étudiantes, et l'Union sociale pour l'habitat, c'est-à-dire les organismes HLM, ceux qui ont une capacité de maîtrise d'ouvrage, ceux qui tous les ans en France réalisent autour de 110, 115 000 logements sociaux, toutes catégories confondues, sont prêts à prendre toute leur part dans la production de logements étudiants, dans le périmètre des campus, avec les projets des universités, et avec comme gestionnaire privilégié les CROUS, dont la légitimité en matière de gestion de logements étudiants leur est totalement acquise. Donc, le 2 octobre, cet accord a permis, je crois pour la première fois, de rassembler ces trois grands acteurs au travers de cette ambition, au service de cette ambition, avec tout un engagement de leur part sur le développement de la connaissance. Je disais précédemment que pour éclairer les démarches PLU et PLH, on avait les travaux des observatoires territoriaux du logement des étudiants. C'est une très belle démarche qui est engagée par ce qu'on appelle le bloc local, donc les associations de collectivités, et tout particulièrement la Fédération nationale des agences d'urbanisme, avec le soutien du ministère de l'Enseignement supérieur, avec le soutien du ministère chargé du logement. Le bloc local a favorisé la construction de la connaissance sur le logement étudiant au travers de ces observatoires. Et dans le protocole qui a été signé le 2 octobre, on retrouve l'engagement des trois acteurs à travailler sur ce même sujet. Mais on va le trouver également sur les défis d'aujourd'hui, que sont les défis de la performance énergétique des constructions, le défi de l'innovation pour construire mieux et peut-être dans des délais plus courts. On va aussi trouver des réponses qui peuvent ne concerner d'autres publics que les étudiants, car les universités, mais on peut penser aussi aux centres hospitaliers universitaires, ont aussi un défi pour loger leurs propres salariés, leurs propres jeunes actifs. Donc on peut avoir une réflexion au travers de ce protocole sur le cœur du sujet logement étudiant, mais également une ouverture au bénéfice d'autres publics prioritaires pour le monde universitaire, l'employeur, CHU, l'employeur hospitalier.
Et puisqu'on parle d'actualité, est-ce que le plan de relance prévoit des financements au bénéfice du logement pour les étudiants et pour les jeunes actifs ?
Alors, ce plan de relance qui a été annoncé le 3 septembre 2020 est comme, je vais faire un anglicisme, est comme un booster pour produire davantage en termes notamment de rénovation énergétique. le défi de la rénovation énergétique, le défi de la réhabilitation, il était déjà présent. Mais le plan de relance va permettre de l'accompagner et de lui donner un stimulus plus fort pour les deux années à venir, 2021-2022. Alors on va d'abord parler des résidences étudiantes, des centres des régionaux, des œuvres universitaires et scolaires, des CROUS. Ce sont des établissements publics de l'État. Donc on va se mettre dans le plan de relance sous la rubrique « Rénovation des bâtiments publics ». C'est une enveloppe considérable, mais pour tous les bâtiments publics, pas uniquement pour les résidences des CROUS. C'est une enveloppe de 4 milliards d'euros. Même quand on préflèche 300 millions d'euros vers les régions, il y a là 3,7 milliards. Et c'est au travers d'appels à projets que des dossiers vont être déposés et instruits dans un délai très court, puisque les dossiers sont à rendre cette semaine. Ils vont être examinés dans les deux prochains mois. Et dès le début du mois de décembre, ceux qui bénéficieront d'un financement au titre du plan de relance seront connus pour un début des travaux tout au long de l'année 2021. Donc on a là une ressource exceptionnelle pour appuyer des projets qui ont déjà été réfléchis, qui ont déjà été étudiés, qui ont une haute ambition en termes de performance énergétique et qui surtout sont prêts à démarrer. À Metz, on a bien sûr signé le protocole dont on a parlé précédemment, mais Madame la ministre de l'Enseignement supérieur et Madame la ministre déléguée au logement ont également soutenu le CROUS de Lorraine dans sa démarche de préparation de deux dossiers, un dossier pour des résidences à Metz, un autre pour des résidences à Nancy, qui vont être déposés au titre du plan de relance. Ce sont des projets sur lesquels on a aussi naturellement besoin du soutien du bloc local. Car si on regarde plus globalement ce que font les CROUS, France entière, l'ambition est de réhabiliter encore 20 000 logements pour une enveloppe entre 500 et 600 millions d'euros. Tout ne viendra pas du plan de relance. Tout ne se fera pas dans les deux ans à venir. C'est au travers de la négociation des contrats de plan État-région 2021-2027 qu'on va emporter le partenariat de collectivités importantes comme les conseils régionaux. Et puis, il y a des métropoles qui sont prêtes à s'engager. Je vais prendre deux exemples formidables. La métropole européenne de Lille, qui a annoncé qu'elle soutiendrait la réhabilitation des résidences du CROUS de Lille à Villeneuve-d'Ascq. Et puis, vendredi, la métropole de Metz, qui soutiendra également les projets du CROUS de Lorraine dans l'intérieur du campus du Saucy à Metz. Donc, on a un plan de relance qui va imprimer un coup de booster à la rénovation énergétique et on a, plus globalement, les contrats de plan État-région. En ce qui concerne le logement des jeunes actifs, je parlais tout à l'heure des foyers de jeunes travailleurs. Il n'existait pas ces dernières années de financement dédié à leur restructuration, à leur réhabilitation lourde, à leur rénovation énergétique. Tout à l'heure, je parlais de financement pour le développement d'une offre nouvelle. Ce financement est là, c'est les projets que nous attendons. En ce qui concerne la rénovation énergétique, il y a une autre mesure dans le plan de relance qui a été annoncé le 3 septembre, qui vise à la réhabilitation, transformation lourde des logements sociaux. Ce sont quelque 500 millions d'euros qui vont y être consacrés pour les deux ans à venir. Et nous sommes d'ores et déjà en train de préparer la programmation de l'année 2021, qui pourra être présentée au conseil d'administration du Fonds national des aides à la pierre dès le mois de novembre. Donc les services du ministère du Logement, les services régionaux, les directions régionales, les DREAL, font aujourd'hui une vaste enquête pour connaître les projets les plus prêts, ceux qui sont les meilleurs du point de vue de la rénovation énergétique, ceux qu'il est crédible de réaliser en les finançant dès 2021. Au sein du parc de logements sociaux en France, c'est un parc énorme, ce sont 5 millions de logements sociaux qui accueillent quelque 11 millions de Français. Au sein de ce parc, il y a les foyers de jeunes travailleurs. Et le plan de relance les cite explicitement. À la page sur la mesure rénovation énergétique des logements sociaux, vous trouvez mention des foyers de jeunes travailleurs. Donc je souhaite vraiment que dans l'enquête qui est actuellement conduite par les directions régionales du logement, auprès des préfets de région, je souhaite vraiment que remontent des projets des foyers de jeunes travailleurs pour qu'ils bénéficient aussi d'un soutien du plan de relance pour leur rénovation.
Au-delà des résidences étudiantes dont nous avons parlé là pendant 20 minutes et on conclura là-dessus, quelles réponses peuvent être apportées aux besoins des jeunes actifs ?
Alors effectivement, sur les jeunes actifs, ce qu'il faut avoir à l'esprit, c'est qu'il existe une formidable boîte à outils. Donc tout le travail au niveau des territoires et en fonction des questions qui seront posées, on pourra regarder les différentes pièces de la boîte à outils. Mais le travail au niveau des territoires est de s'emparer pleinement de cette boîte à outils pour apporter des réponses multifacettes aux besoins des jeunes. Et je voudrais dire un mot plus particulier, puisque nous sommes en 2020, de l'article 109 de la loi Elan. Cet article va trouver concrétisation dès cette année. De quoi s'agit-il ? Dans le parc social aujourd'hui, il y a un certain nombre de publics prioritaires avec des critères qui sont définis par le Code de la construction et de l'habitation. Depuis la loi dite Élan, la loi portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique de novembre 2018, il a été inscrit dans le Code de la construction et de l'habitation qu'un certain nombre de logements sociaux pouvaient être réservés prioritairement à des jeunes de moins de 30 ans. Pour un contrat de location court, un contrat de location d'au plus un an, qui peut être renouvelé si le jeune satisfait toujours les conditions d'âge et de ressources. Donc on va avoir comme une file prioritaire jeunes de moins de 30 ans pour un nombre bien encadré de logements du parc social. En 2020, les outils sont en place pour les nouvelles opérations. Donc nous avons aujourd'hui, dans la programmation 2020, des opérations sur les territoires avec des logements dits article 109, qui demain apporteront des solutions logement à des jeunes de moins de 30 ans. Et Madame la Ministre a annoncé également la rédaction d'un nouveau décret qui permettra de réserver des logements du parc HLM existant également à des jeunes de moins de 30 ans. Donc voilà la boîte à outils et voilà surtout cette formidable opportunité que nous donne l'article 109 de la loi Élan d'accueillir des jeunes dans le parc social dont on sait aujourd'hui qu'il y a peu de mobilité. Les gens y ont le droit au maintien dans les lieux, les besoins sont énormes, donc il y a peu de mobilité. Donc un jeune de moins de 30 ans qui décrocherait un contrat à durée déterminée et qui s'inscrirait dans la longue file d'attente d'un logement social, peut-être ne trouvera pas de solution avant l'expiration de son contrat à durée déterminée et peut-être devra-t-il renoncer à cette proposition d'embauche. Si demain, un nombre bien encadré de logements du parc HLM sont réservés à des jeunes de moins de 30 ans, on aura là autant de réponses à leurs besoins.
Merci Yves Roche pour toutes ces explications sur le logement des étudiants et des jeunes actifs. On poursuit avec vous Michel et avec les questions des auditeurs.
Le MAC de l'urbanisme, de l'aménagement et du logement, on répond à vos questions.
Il y a des questions Michel.
Oui, on a déjà quelques questions. Donc déjà une première question, Yves, tu viens de parler des logements des jeunes dans le parc social. Est-ce qu'on peut avoir une idée ? Est-ce qu'on connaît le pourcentage d'étudiants ou de jeunes actifs qui aujourd'hui ont des logements, disposent de logements dans le parc social ?
Alors les étudiants, je le disais tout à l'heure, sont très nombreux. À la rentrée universitaire 2020, il y a plus de 2 700 000 inscrits dans l'enseignement supérieur. Ils sont très nombreux et leur niveau de ressources est très variable. Il y a des étudiants qui viennent de milieux aux ressources modestes. Il y a des étudiants qui ont la chance de rester chez leurs parents ou d'accéder à un logement propriété de leurs parents. On a donc des ressources très variables. Mais il y a, dans ces 2 700 000 inscrits dans l'enseignement supérieur, plus de 700 000 étudiants boursiers. Donc des étudiants qui bénéficient d'une aide parce que leur niveau de ressources est plus modeste. Et on n'est pas capable, aujourd'hui, dans le parc social, d'accueillir l'intégralité, ne fût-ce que de ces étudiants boursiers, puisque le parc de résidences étudiantes dédiées, donc ce qui a le format d'une résidence avec des studios, 80, 100 studios, lorsqu'il est à caractère social, donc avec des loyers bien encadrés, avec des plafonds de ressources pour les étudiants qui y accèdent, représente tout au plus 215 000, 220 000 lits. Donc vous voyez que si on reprend 2 700 000 inscrits dans l'enseignement supérieur, 720 000 boursiers et seulement 215 000 lits à caractère social pour les accueillir en résidence étudiante, on a devant nous une belle ambition pour porter ce qui est aujourd'hui à 8%, pour le porter autour de 10, 11, 12%. Ce qui restera modeste, mais qui amènera une vraie respiration dans les métropoles où la revue de presse du mois de septembre a encore montré qu'il existait des tensions sur le logement étudiant.
On a une autre question.
Alors, on a une question de Philippe, qui est dans la Haute-Vienne, qui nous pose une question sur la rénovation d'autres travaux de rénovation que ceux de rénovation énergétique. Donc, je vous lis la question. Un foyer de jeunes travailleurs dans la Haute-Vienne souhaite répondre aux contraintes sanitaires en remplaçant la cuisine collective par des kitchenettes dans chaque logement. Cependant, le circuit électrique est vétuste et doit être complètement refait. Quels financements sont possibles ? Est-ce que le plan de relance peut être mobilisé dans ce cadre ?
Alors quand on prend un foyer de jeunes travailleurs, on peut effectivement avoir des objectifs de travaux qui passent par des logements plus autonomes. Vous parliez de kitchenette dans chaque logement, qui passe par la rénovation énergétique, pourquoi pas l'extension de capacité du foyer de jeunes travailleurs. Et il est tout à fait possible de monter un dossier global avec, en identifiant bien la part de dépenses sur la rénovation énergétique, la part d'accroissement de capacité qui bénéficiera de financement, je l'évoquais tout à l'heure, au titre de la production nouvelle, et puis la part de transformation des espaces collectifs, de l'aménagement de cuisine ou de kitchenette dans chacun des logements, et tout cela dans le cadre de partenariats financiers à construire. Donc il n'est pas possible, et c'est, le plan de relance n'est pas écrit comme cela, que le plan de relance finance l'intégralité d'un tel projet. En revanche, souvent, ces projets ont déjà mûri, ces projets ont déjà rassemblé, il y a déjà eu des tours de table financiers, et il manquait quelque chose pour passer à l'acte. Et c'est ça qu'amène le plan de relance, en fléchant bien les financements plan de relance sur la rénovation énergétique.
On a d'autres questions ?
Alors, une question de Géraldine qui nous indique que les jeunes aujourd'hui apprécient beaucoup les colocations. Est-ce qu'il est possible d'avoir accès à des colocations dans le parc social ?
Alors, la colocation est quelque chose qui, effectivement, a son public, qui plaît bien aux jeunes. On la connaît beaucoup dans le parc privé. Dans le parc social, je la qualifierais encore un petit peu de confidentielle, insuffisamment connue, insuffisamment développée. Une enquête rapide qui a été faite à la fin de l'année 2019 a montré que fin 2019, il y avait autour, et c'est seulement 5000 logements du parc social HLM en colocation pour autour de 10 500, 11 000 colocataires. Vous vous souvenez, j'ai dit tout à l'heure, le parc social en France, c'est 5 millions de logements et 11 millions de locataires. Donc 5000 et 10 500, ça veut dire qu'il y a seulement un logement sur 1000 qui est en colocation. Or, la loi Elan, avec un certain nombre de dispositions, a consolidé le sujet de la colocation et les organismes HLM sont donc invités à développer ces propositions et bien sûr, ils trouveront en face d'eux un public jeune et pas que, puisque l'article de la loi Elan sur la colocation permet d'accueillir d'autres qui voudraient être en colocation. Mais oui, nous souhaitons répondre davantage à l'attente des jeunes sur le sujet de la colocation dans le parc social, puisque dans le parc privé, les prix sont naturellement plus élevés. Donc dans le parc social, on peut avoir des réponses aux besoins des jeunes en colocation. Les textes sont là. Aujourd'hui, le sujet est un peu confidentiel, mais il appelle à se développer.
On a encore le temps pour une question, Michel.
Alors, une question de Victor qui nous demande s'il est possible d'avoir des aides pour les cautions, pour ces jeunes qui sont en situation difficile et dont les parents ont peut-être de faibles revenus. Est-ce qu'il peut y avoir des aides pour les cautions ?
Alors, Action Logement a depuis plusieurs années développé un dispositif de garantie locative, un dispositif qui s'appelle VISAL. Et le ministère du Logement a demandé à Action Logement d'étendre le bénéfice de ce dispositif d'abord à tous les étudiants, mais également à tous les jeunes de moins de 30 ans. Donc ce dispositif connaît un véritable essor du fait de sa plus large ouverture. Et c'est un dispositif qui répond à ce que vous disiez, Madame Phélep, en termes de besoins de jeunes qui ne trouveraient pas d'autres garanties. Donc c'est un dispositif qui doit également être plus largement connu, avec des chiffres très encourageants. Je consultais récemment les chiffres. Alors, l'année 2019 a été une année extraordinaire, avec plus de 85 000, je crois, donc caution VISAL accordée. Et l'année 2020, malgré la crise du coronavirus qui a pénalisé tous les indicateurs chiffrés, eh bien, en 2020, nous sommes en train de faire une très belle année de déploiement de VISAL, peut-être même supérieure à 2019.
On a encore une question.
Oui, on a une dernière question de Philippe, de la DDT de la Haute-Vienne, qui indique qu'il a déjà assisté à une formation de Monsieur Roche et qui demande un financement, alors c'est une question technique, pour un foyer de jeunes travailleurs, que Monsieur Roche vous auriez indiqué que c'était plutôt du PLAI et non du PLAI adapté, que le guide des dispositifs d'hébergement et de logement adapté publié en septembre par le CEREMA indique un financement PLAI adapté. Et donc, il demande encore de confirmer Ah non, du coup, c'est deux positions contradictoires. Alors, il vous demande de confirmer.
Ah ben moi, je m'en remettrai ce matin entièrement au professeur Philippe, mais qu'il me pardonne, je vais tout de même au bureau poser la question et je plaide coupable. Philippe m'avait effectivement posé la question. J'ai fait d'autres choses. Je n'ai pas creusé le sujet, mais si c'est dans un guide aussi sérieux qu'un guide du CEREMA, c'est tout à fait vraisemblable. Mais je préférerais que... conforte cette réponse. Moi, j'étais vraiment, je suis quelqu'un de très sincère, j'étais sur le PLAI, mais si effectivement le guide dit PLAI adapté et qu'il peut être mobilisé, c'est pas moi qui contredirais ni le professeur Philippe, ni un guide du CEREMA.
Vous aurez une réponse bientôt, en tout cas, parole d'Yves. Merci beaucoup, voilà qui conclut ce nouveau numéro du MAC de l'urbanisme, de l'aménagement et du logement, consacré aujourd'hui au logement des étudiants et des jeunes actifs. Merci Michel Phelep de m'avoir accompagné durant cette émission. Je rappelle que vous êtes chargé de mission animation territoriale DHUP DGALN et nous étions aujourd'hui avec le chef de projet pour le logement des étudiants et des jeunes actifs DHUP DGALN, Yves Roche. Merci beaucoup Yves et merci à vous auditeurs de nous avoir suivis. Pour ceux qui voudraient retrouver les précédentes émissions, direction le site de Radio Territoria pour retrouver tous les podcasts. Restez bien à l'écoute de vos territoires sur Radio Territoria. À très bientôt.
Le MAC de l'urbanisme, de l'aménagement et du logement, une émission en partenariat avec le ministère en charge du logement, à réécouter et à télécharger sur Radio Territoria et toutes les plateformes d'écoute habituelles.